De retour à notre émission, aujourd'hui, on va souligner un événement qui s'est produit un 12 janvier en 2010. On veut le souligner aujourd'hui parce qu'on a la chance d'avoir un témoignage de Silvio Bourget de Gaspé. C'est le fameux tremblement de terre du côté de Haïti. Ça se passait donc en 2010, il y a 8 ans, un 12 janvier. Tremblement de terre d'une magnitude de 7 à 7,3 sur l'échelle Richter. Il y a eu plusieurs répliques par la suite, donc ça n'a pas été un seul événement. Ça a été tout un impact aussi du côté humain. On parle d'1,5 million de personnes, 15% de la population qui aurait été affectée directement ou indirectement par ce tremblement de terre, 300 000 personnes aussi qui auraient perdu la vie et aussi des pertes estimées lorsqu'on parle de résidences détruites, endommagées, évidemment d'établissements et tout, de 7,9 milliards de dollars, de gros chiffres. Silvio Bourget était sur place lorsque ça s'est produit. On va en parler avec lui. Bonjour.
Bonjour Richard.
Chez nous, en 2010, là, lorsqu'on a appris qu'il y a eu ce tremblement de terre, on savait qu'il y avait des gens de la Gaspésie qui étaient là. Il y avait 6 personnes, dont vous étiez là. Et évidemment, on courait après l'information pour savoir qu'est-ce qui s'était passé. Est-ce que ces personnes-là étaient saines et saufs? Alors finalement, on a appris avec le temps, à quelques jours, que tout avait bien, finalement, c'était bien terminé. Mais dans votre cas, vous avez été pris en plein milieu de ce tremblement de terre. Parlez-moi un peu là, de vos souvenirs là-dessus.
Bien, en fait, on pourrait peut-être penser qu'il y a comme une destinée quelque part, parce que cette journée-là, quand on a atterri sur le tarmac, il y avait eu un problème avec un réacteur. On a pris du temps avant de débarquer de l'avion. Avec le fil des événements, moi, si le processus serait fait comme d'habitude, je serais déjà rendu à l'Hogan où je devais aller. Puis le tremblement de terre était aussi fort à Logan. Quand je suis arrivé là, ma chambre, tout le bâtiment où j'étais était écrasé. Le fait que tout a retardé, comme l'avion, on a resté peut-être une heure de plus sur le tarmac, ça a fait qu'au moment où le tremblement de terre est arrivé, j'étais en plein milieu, j'étais dans un Jeep, on était en plein milieu, on était trois rangés, puis on était en plein milieu. Mais les autos qui étaient de chaque côté de nous autres, ils ont tout été écrasés. On a été chanceux d'être au milieu. On s'est tassé à un moment donné. Le chauffeur s'est tassé. Puis je me souviens, il y avait une voiture de police en arrière de nous qui klaxonnait pour passer à notre droite.
Ça fait vous étiez donc en automobile quand ça a commencé?
Oui, en plein milieu.
Vous rouliez, tout allait bien.
Dans le centre-ville de Port-au-Prince. Puis à un moment donné, j'ai entendu comme un sifflement. Puis il n'y a rien qui bougeait, juste un sifflement comme un vent. Puis je me suis viré à ma droite, puis j'ai vu un bâtiment tomber, comme un château de cartes. Clac, 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 clac. Puis là, à un moment donné, la première secousse est venue parce que ce que les nouvelles ne disent pas, c'est qu'il y a eu deux secousses, en fait. Il y a une secousse qui était, comme on peut dire, est-ouest, puis une autre nord-sud. Fait que dans la première secousse, le Jeep brassait de gauche à droite, tanguait de gauche à droite. Puis la deuxième secousse, il tanguait d'en avant en arrière. Puis c'est comme si on était sur une mer démontée. On ne pouvait pas se tenir à l'intérieur du Jeep, même si on était attaché. Ça fait que c'est eu deux secousses. Puis... tout ça s'est arrêté. Là, ça a fait beaucoup de bruit.
Est-ce que ça a duré longtemps?
On dit toujours une éternité, mais ça a été long parce qu'il y a eu deux secousses. C'est un tremblement de terre qui était comme atypique. De deux secousses de deux sens, ça veut dire qu'il y a eu deux phénomènes qui s'est passé simultanément. Puis quand tout ça, quand les secousses sont arrêtées, le seul bâtiment qui était tombé, c'est lui qui était à ma droite. Là. Ça a arrêté. Là, après ça, tous les bâtiments ont tombé. Là, ça a été un bruit infernal. C'était comme la fumée blanche comme World Trade Center, c'est exactement comme ça. Puis ça a duré, je ne sais pas combien de temps. Puis là, après ça, on n'attendait plus rien. Puis là, les gens se sont mis à crier. Puis pour eux, c'était la fin du monde. Puis j'ai fait un petit film. Je ne sais pas qui m'a pris. J'ai jamais eu peur. Je ne sais pas pourquoi je ne peux pas expliquer ça aujourd'hui.
Ben voyons donc. Ouais.
Ouais. Puis j'avais ma petite caméra, puis j'ai filmé ce que je voyais. Puis là, le chauffeur m'a crié, le conducteur m'a crié de rentrer. Il dit, c'est dangereux. Parce que là, les gens commençaient. Parce que quand ils voyaient un blanc, c'est toujours la faute du blanc quand il arrive une catastrophe. Fait que les gens auraient pu sauter sur moi et me faire un mauvais parti. Fait que là, on embarquait à l'intérieur. Mais là, lui avait peur, il savait pas où aller parce que les fils étaient par terre, puis il y avait du feu partout, des explosions. Les stations d'essence, ça sautait. Puis... malheureusement, il a pris de mauvaises décisions. Au lieu de rester sur le grand boulevard, il a pris une petite route de côté. C'était un cul-de-sac. Puis quand on a passé là-dedans, ben là, puis il était à 5h moins quart quand c'est arrivé. Fait que la noirceur, à 6h, il fait noir à Province, dans ces pays-là. Fait que là, on était pris dans ce ruelle-là. Puis quand on passait, il y a encore des blocs de béton qui se détachaient, puis des petits qui tombaient sur le Jeep, puis à côté. Puis là, plus on allait, plus parce que les gens étaient tous dehors. Puis ils se sont refermés autour du Jeep. Là, on était mal pris. Bien plus que si on avait été resté au centre-ville.
Et comment vous vous en êtes sorti?
dans la foule, je ne sais pas pourquoi, j'ai vu un regard, j'ai vu quelqu'un là, qui me regardait, puis je me suis approché de lui, puis j'ai parlé, puis j'ai dit, peux-tu me trouver? Je t'ai dit, je te donne 20 US si tu me trouves un moyen de sortir d'ici, pourquoi sortir d'ici? Là, il m'explique finalement qu'il va à l'Université Laval, puis il étudie en géographie, puis qu'il est après expliqué aux gens qu'est-ce qui s'est passé, parce que les gens pensent à un tremblement de terre.
Ouf!
Ça fait que, en tout cas, je fais une histoire courte parce qu'on a resté 4 heures et demie, là, au-dessus de 4 heures dans ce bled-là. Là. Fait que finalement, lui a fini par nous trouver un. Il a déplacé. Parce qu'il y a des gens qui étaient couchés partout. Puis moi, je voulais pas qu'on dérange des gens. Lui, il s'en est occupé. Il nous a fait un passage. On a descendu, puis on a descendu sur le club. On a fini par trouver le centre-ville. Puis là, on a parti pour le Hogan, qui est à peu près 25 km. De Port-au-Prince. C'est là où je fais ma mission, les Hogan. J'arrivais à peu près à minuit, parce que quand on s'en allait, nous autres, il y avait des morts partout. J'ai eu bien connaissance qu'on a écrasé des gens en s'en allant. Il y en avait partout. On pouvait pas, on voyait presque plus rien. Puis il fallait surtout pas briser le jeep. Il fallait qu'on soit capable de se rendre où on voulait se rendre.
À 25 km.
Oui, c'est ça. Puis c'est loin, 25 km, quand la route est toute défaite, là. Ça fait qu'on a fini par arriver où on devait arriver, à le Hogan, c'est à l'hôpital Cardinal Léger. Puis quand on est arrivé, là, on s'est rendu compte. Que rendu à Logan, on s'est rendu compte que nous autres, on pensait retrouver nos lits et le confort, là. Mais on s'est rendu compte qu'à Logan, c'est encore pire qu'à Port-au-Prince. Fait que cette fameuse faille-là, en fait, compte, il appelle la faille de Logan. On s'entend pas si c'est encore elle qui a fait ça ou pas, mais en tout cas, Logan, c'est un milieu qui est terriblement sensible au séisme, comme ça. Quand on est arrivé dans l'entrée, là, on regardait, c'est un milieu hospitalier, puis la sœur qui était responsable de l'hôpital, sœur Yolande Leblanc, qui est une Gaspésienne. La première, sa première préoccupation, c'est l'hôpital. Puis là, on a vu, à un moment donné, on a vu que l'hôpital était pas mal tout écrasé. Puis là, elle avait une dizaine de patients à l'intérieur de ça. Là. Après ça, ça a été le couvent, ce que les sœurs. Mais moi, en face de ça, c'est le bâtiment où je dormais, là. C'est un 2 étages. Puis j'ai vu un gros trou. Là, j'ai lâché un cri. Puis c'est mon lit qui pendait. On voyait mon lit dans le trou qui était là. C'est ma chambre qui était de ce côté-là.
Quel sentiment vous deviez avoir à ce moment-là? Ça n'a pas de bon sens?
Le cœur à. Là, vite, j'ai fait tout le calcul. J'ai dit, normalement, j'étais là. Après, je prends ma douche, c'est toujours le rituel que j'ai. Puis, en fait, quand on regardait un peu à côté, là, c'était le couvent, il y avait 2 étages. Tout ce qui avait 2 étages est écrasé. Un étage, ça a toffé, ça a fait la job. Mais tout ce qui était à 2 étages, c'était tout écrasé. Là, on cherchait les religieuses qui étaient là. Il y avait quand même une dizaine de personnes dans ce couvent-là. Fait que là, il faisait noir, puis on. Ce qui est drôle, le personnel à la grille, tout le monde a dit bonsoir, comme si tout était normal. Et tout le monde est à son poste. Là, finalement, j'ai entendu des lamentations, puis j'étais équipé pour la montagne quand je vais en Haïti. Fait que j'ai des cierges, des torches, j'ai beaucoup de matériel. J'ai même du manger où je peux me débrouiller, du manger de siège, des choses comme ça. Ça fait que là, j'ai sorti ma lampe frontale. Puis là, je me suis dirigé vers où c'était là, où j'attendais les gémissements. Là, j'ai vu une dizaine de sœurs en rond. Puis il y avait une sœur, la cuisinière, elle avait aux alentours de 80 ans. Puis elle avait tout le front en sang, parce qu'il y a une brique qui avait tombé sur la tête. Puis il y a juste une qui était blessée, puis elle s'est cassée, fracturée le bassin. Mais le restant, les autres étaient corrects.
OK. Mmh. À quel moment vous êtes arrêté? Puis que là, ça vous. Parce que tout à l'heure, vous êtes dans le feu de l'action, là, j'avais pas peur, puis il fallait bouger, puis il fallait sortir de là. Mais à quel moment, là, vous êtes arrêté, puis que vous avez réalisé tout ce qui s'est passé, puis que là, vous réalisez que vous auriez pu partir, là?
Oui, en fait, c'est ça. C'est l'adrénaline, là, c'est comme. Quand, sur le coup, on pense juste à sauver sa peau. C'est sauf qu'il peut. C'est... Fait que ce sentiment-là ne nous envahit pas tout de suite. La première nuit, qu'on a passé, qu'on était couché par terre, puis la sol n'arrêtait pas de trembler. Puis là, les bâtiments tombaient. Puis là, j'ai jamais vraiment dormi, mais là, je repasse le fil des événements, puis j'aurais dit 15 secondes à droite, puis j'étais fait, j'étais parti. Puis là, je me suis dit, comment ça se fait que je suis encore vivant? Qu'est-ce qui est arrivé que je suis encore vivant? L'avion qui a pris 1 heure et demie de plus que d'habitude, 1 heure et demie, c'est le temps que ça me prend pour prendre à Logan, c'est pas compliqué. Je serais dans l'appartement où j'étais. Puis... Fait que là, tu viens comme... C'est pas de la nervosité, mais si tu te demandes, c'est les remises en question. Mm-hmm. Tu passes tout le temps à faire des remises en question, puis c'est ça là qui arrête pas de trembler. Puis t'attends tout le temps des pierres, des bâtiments tombés. Puis ça dure ça toute la nuit. Les deux sœurs blessées qui pleurent. Mm-hmm. Fait que là, tu te dis où ça va finir.
Oui, c'est ça. Je me demandais, bon, là, vous devez vous demander, est-ce que je vais pouvoir m'en sortir ou sortir de là ou comment ça va finir? Oui, c'est ça.
Moi, la crainte que j'ai eue, durant la nuit, c'était tout le temps des remises en question, mais le matin, la crainte est venue plus de la population. Eux, ils ne comprenaient toujours pas. Les Haïtiens, c'est des gens qui sont terriblement sensibles, terriblement superstitieux. Il n'était pas question de se montrer à la grille, nous autres-là. Il ne fallait pas qu'ils voient les Blancs. Mais aussi, on voyait qu'on commençait à voir des pillages aussi autour. Fait que là, on s'est dit, ils vont venir. Après ça, c'est l'hôpital où on a, de l'essence, on a beaucoup de choses qui sont intéressantes. Ils savent qu'il y a du manger, là, il y a de l'argent. Mm-hmm. Fait que là, on sentait que la foule, il y avait beaucoup, beaucoup de monde dans les rues qui braillait, qui criait. Là, j'ai eu comme un... Pas de panique, mais j'ai dit, il faut que je me mette là, il faut que je me mette dans. On ne peut pas rester ici, nous autres, là.
Okay.
Il faut qu'on fasse un move, là.
Comment vous avez fait, là?
Bien, c'est la sœur qui était là, elle est en Haïti depuis une vingtaine d'années. On connaissait le brigadier en chef du camp de l'ONU, des Casques Bleus. C'est un Sri Lankais. Moi, je l'avais déjà croisé juste une fois. Ça qu'on s'est dit, demain matin, à première heure, on va aller là. Mais là, il y avait déjà une trentaine d'heures de passé, ou peut-être plus, là, depuis le tremblement de terre. Fait que là, puis dire qu'on ne pensait pas nos proches, on y pensait, mais on est en mode survie encore, là. Fait que faut d'abord se rassurer, puis avant de rassurer les autres. On arrivait au camp, puis là, ben, il y avait beaucoup... Tout le monde voulait rentrer là, parce qu'il y avait l'électricité, puis les gens, il y avait des gens sans abri. Fait que là, les portes étaient barrées, puis pour question de laisser passer personne. Fait que là, nous autres, on était dans le Jeep, là, puis c'est parce que c'est moi qui conduisais, parce que on n'avait pas personne d'autre. Fait que là, j'étais comme massé aux côtés de la foule. Puis là, à un moment donné, on voyait les gardiens là, qui boiraient tout le monde. Là, j'ai sorti mon passeport. J'ai crié « Canadienne, Canadienne, Canadienne ». Puis là, je me souviens plus du nom du brigadier, mais la sœur s'en souvenait, fait qu'on a crié son nom. Fait que là, finalement, il y a un autre qui est arrivé, un gradé qui est arrivé. Il nous a regardé, bon, puis il nous a fait signe de passer. On a rentré. Ça fait que là, on lui a expliqué un peu la situation. Mais quand on est arrivé là, c'était plein d'Américains. Beaucoup, beaucoup d'Américains. Parce qu'on ne savait même pas qu'il y avait autant d'Américains à Logan. Je n'avais jamais vu ces gens-là. Mais beaucoup d'estropiés.
Okay.
Puis on était dans une espèce de tente, il y avait beaucoup de sang, puis les gens avaient beaucoup de lamentations, des bras cassés, des membres cassés, on a vu en masse. Fait que là, j'ai vu le poste un ordinateur. Fait que là, j'ai dit, il faut essayer d'envoyer un message. Là. Fait que là, j'ai fait comprendre au monsieur, j'ai dit, je vais l'envoyer juste un petit. Tout le monde doit envoyer un message, puis personne ne voulait nous laisser passer. Fait que là, finalement, le haut gradé qui était venu, il a demandé aux gens. Je me suis mis de côté, j'ai écrit. Je me suis plus trop trouvé même ce que j'ai écrit. Puis c'était plein de fautes. C'est l'adresse de ça, Patricia, que j'avais en tête, même pas la mienne. Fait que j'ai écrit vite à ça, Patricia, qu'on était sain et sauf, quelques allégations. Je me suis plus trop ce que j'ai écrit. Mais c'est ce message-là qui a déclenché après ça. Là.
Comment vous avez fait pour revenir, finalement? Vous êtes revenu en Gaspésie combien de jours après?
En fait, là, une journée après ça, je pense, là, l'ambassade du Canada s'est enfin réveillée parce que là, Patricia travaillait fort ici aussi pour dire, bien, il faut aller les chercher. Nous autres, on ne peut pas trop bouger. Fait que là, puis nous autres, on est à Logan, puis on a essayé de voir là, comment est-ce qu'on pouvait sortir de là aussi. Puis on voulait pas sortir, on voulait sortir en douce. Fait que là, finalement, on n'avait plus d'essence. Fait qu'il y avait la génératrice. On a siphonné du diesel de la génératrice. On l'a mis dans le Jeep. Moi, j'ai pris mes pas de sac, j'ai mis une couverture par-dessus ça. On est parti comme ça en douce pour Port-au-Prince. Quand on arrivait à Port-au-Prince, il n'y avait rien de fait encore. Il n'y avait pas une voiture de police, pas de l'armée, il n'y avait rien nulle part. Fait qu'on s'est dirigé à l'ambassade du Canada. Bon, parce qu'on savait que c'était là qu'il fallait aller. Puis on s'est dirigé à l'ambassade du Canada. Puis là, avec nos passeports, nous ont fait rentrer. On a attendu là une vingtaine d'heures. Puis après ça, ils nous ont repatriés avec un avion cargo. Là.
Donc, vraiment très émouvant ce que vous nous dites. Puis j'ai l'impression que vous revivez encore ces événements-là aujourd'hui. Ça doit être encore très présent là, dans votre esprit. Hein,
Ce qui est resté aujourd'hui de ça, c'est des bruits. Ou encore aujourd'hui, ça, c'est jamais parti. Une porte qui claque, là, je vais sursauter. Un bruit sec comme ça, là, ça, c'est resté. La nuit, les bruits de la nuit aussi. C'est un bruit incongru la nuit aussi. Ça va me réveiller tout de suite. Mais c'est sûr que les images, quand on en parle, c'est filmé, ça. C'est une vidéo que tu as dans la tête. Puis,
ouais.
Chaque minute est encore là.
On va faire une pause, Sylvio Bourget. Ouais. On revient avec vous. Parce que, bon, malgré, évidemment, tout ce que vous nous avez raconté, puis cette tristesse aussi, puis tout ce qui s'est passé. Mmh. Il y a eu des moments difficiles, mais il y a de beaux moments qui sont survenus après, et on va en parler avec vous.
D'accord.